Les entretiens de Causons d'Europe, épisode 3. L'extrême droite en Europe, avec Jean-Yves Camus, politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Pour ce troisième entretien de Causons d'Europe, on va parler de l'extrême droite ou des extrêmes droites en Europe. Je suis en ligne avec Jean-Yves Camus, politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
On parle d'extrême droite en Europe, mais d'abord, est-ce qu'il existe une seule extrême droite européenne avec des traits communs, ou on peut plutôt parler davantage d'une galaxie de mouvements avec leur particularité ?
Il faudrait commencer par définir plus exactement ce que c'est que l'extrême droite qu'on a tendance à ramener systématiquement aux partis des années 20, des années 30, voire de la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en fait au fascisme et au nazisme. Or, le fascisme tel qu'on l'a connu, le nazisme tel qu'on l'a connu, sont désormais des mouvements marginaux. Les partis qu'on appelle d'extrême droite et qui réussissent dans les urnes partout en Europe, presque partout en Europe, ne sont pas des partis fascistes ou néo-nazis. Ce sont des formations populistes, ce sont des formations xénophobes, ce sont parfois des formations qui promeuvent un nationalisme assez agressif à l'égard soit des pays voisins, soit des minorités. Mais ce qu'on appelle le néo-fascisme, comme le néo-nazisme, sont des phénomènes marginaux. Il y a, à côté de la droite conservatrice et libérale classique, représentée par exemple en France par les Républicains, il y a des formations qui se situent beaucoup plus à droite et dont le triptyque idéologique est la contestation de ce qu'ils appellent le système, terme auquel je mets évidemment des guillemets, l'identité nationale, parce qu'ils ont l'impression que la globalisation a dissous la cohésion des identités, la lutte contre l'immigration, qui est également partout un thème absolument central, mais qui se décline aujourd'hui d'une manière très spécifique, la lutte contre l'immigration extra-européenne, notamment en provenance des pays du monde arabo-musulman ou d'Afrique de l'Ouest. Et donc ces partis se situent nettement à la droite des partis traditionnels que peuvent être donc LR, les conservateurs britanniques, le parti de Mme Merkel en Allemagne, etc. C'est une famille qui distingue également donc par le populisme, c'est l'idée selon laquelle le peuple conçu comme une entité homogène aurait toujours raison contre les élites, raison pour laquelle il faudrait remplacer la démocratie représentative, c'est-à-dire celle que nous connaissons, par la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire notamment. Ça c'est, on va dire, une définition rapide de ce qu'est l'extrême droite. Ensuite, est-ce qu'il y en a plusieurs variantes ? Oui, il y a une infinité de variantes. C'est ça d'ailleurs qui fait la spécificité de cette famille politique, un peu comme la spécificité de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tradition d'extrême éparpillement entre petits groupes rivaux qui se disputent souvent sur des sujets assez anachroniques. Et puis, il y a d'un autre côté des grands partis, dont le Rassemblement National est un exemple, qui eux sont dans la compétition électorale, dans une stratégie de conquête de pouvoir, comme d'autres partis similaires en Europe, on y reviendra sans doute, et qui essayent d'abandonner petit à petit les marqueurs traditionnels de l'extrême droite, parmi lesquels je n'ai pas mentionné l'antisémitisme, qui est un marqueur essentiel et même à l'époque de Jean-Marie Le Pen existait encore. Et puis ensuite, on a toutes les nuances des extrêmes droites. On a des mouvements royalistes, on a des mouvements, de petits mouvements au niveau fasciste, on a tout ce qu'on appelle la mouvance identitaire, dont le bloc identitaire dissous il y a quelques mois était en France la figure de proue. Donc c'est effectivement une galaxie.
On a parlé beaucoup des partis politiques et des idées, mais dans la société, par exemple, pendant longtemps, les stades de foot ont été des lieux où s'exprimaient les idées d'extrême droite, à la fois parmi les supporters et les joueurs. Pourquoi ces lieux étaient-ils propices à la diffusion de ces idées ?
En fait, ce qui s'est passé dans les stades de foot et qui atteint son apogée dans les années 80-90, avant que certains grands clubs y mettent bon ordre, parce que ça nuisait considérablement à leur image, c'est une sorte de colonisation des stades par de petits groupes de supporters qui étaient par ailleurs militants d'extrême droite. Ça s'est produit notamment au Paris Saint-Germain, donc dans une tribune bien particulière. Des militants d'extrême droite étaient venus beaucoup moins pour le football que pour petit 1 exprimer leurs sentiments racistes à l'égard des joueurs de couleur qui se retrouver sur la pelouse. Et petit 2, chercher la bagarre, soit avant la rencontre, soit surtout après la rencontre, dans une forme de violence qui pouvait viser soit les supporters du club adverse, soit les gens qui avaient le malheur de ne pas avoir la bonne couleur de peau et qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. On a eu, à côté du stade Parc des Princes, deux accidents très, très, très graves, hein, qui ont entraîné mort d'homme. Les clubs, je vous l'ai dit, ont essayé pour la plupart de remédier au phénomène, d'abord en prenant les mesures mises en place pour leur propre sécurité, et puis quand ça s'est avéré insuffisant, c'est la police nationale qui s'en est mêlée en créant une unité dédiée à la lutte contre les hooligans, mais tous les hooligans ne sont pas d'extrême droite, loin s'en faut, et en introduisant dans la loi des peines d'interdiction de stade pour toutes les personnes qui se seraient fait prendre dans des incidents. Alors pourquoi est-ce que les militants d'extrême droite ont essayé de coloniser les stades? Parce que dans cette famille politique, il y a une forme de chauvinisme exacerbé qui comprend également un goût pour la bagarre assez développé. J'allais dire la bagarre pour l'affirmation de la virilité et de la puissance, la bagarre sans motif. On a vu effectivement des clubs atteints par cette espèce de tentatives d'infiltration dans les stades des grands clubs, Paris Saint-Germain, l'UVC Nice aussi.
La Lazio Rome aussi en Italie.
Alors la Lazio effectivement en Italie, Strasbourg n'y a pas échappé, mais c'est vrai aussi de nos jours pour un certain nombre de clubs de, je ne veux pas dire de moins d'importance, mais enfin de clubs moins bien classés, je pense notamment à Reims où il y a un petit groupe, pardon, de supporters d'extrême droite, Sochaux, etc. C'est un phénomène qui est désormais assez bien contenu en France par l'unité de police spécialisée à laquelle fait faire référence et par la prolifération des mesures d'interdiction de stade. Dans un certain nombre de clubs étrangers, j'allais dire, il n'y a pas que les supporters ultra, il y a également une partie du public, malheureusement, et on est là dans une affirmation de racisme décomplexé qui vise principalement les joueurs originaires d'Afrique. C'est beaucoup plus difficile à contenir. L'UEFA d'une part, la FIFA d'autre part, mise en place des campagnes contre le racisme que vous voyez à chaque fois qu'il y a un match, hein, sur votre écran de télévision, vous verrez des visuels sur les stades, des spots de publicité, mais ça n'empêche pas certains clubs d'être particulièrement gangrénés par cette forme inacceptable de comportement, et certains joueurs en font considérablement les frais.
C'était les stades dans les années 80-90, vous venez de le dire. Mais maintenant, l'extrême droite, on la retrouve en France, notamment dans la constitution de bars ou d'associations identitaires comme l'Alvarium à Angers, Génération Identitaire ou le Bastion Social. Est-ce qu'il y a des raisons d'abord à ce retour de ce qu'on appelle parfois la peste brune ?
Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, parce que ça nous ramène encore une fois à la période du nazisme et que enfin, les quelques dizaines de personnes qui fréquentent ces lieux ne présentent évidemment pas la même dangerosité et pas toujours la même idéologie d'ailleurs que le national-socialisme. La peste brune, c'est un peu une notion, d'abord c'est une notion militante et ensuite c'est une notion qui véritablement concerne le national-socialisme allemand des années 30 particulièrement. Il faut comprendre que dans ces mouvements atterrissent des jeunes gens et parfois des jeunes femmes qui cherchent à trouver un lieu de socialisation qui comble assez souvent un isolement, une rupture familiale, des difficultés de communication, le fait qu'ils ou elles ont des idées politiques qui sont à l'opposé de celles du milieu familial et qui rendent particulièrement compliquée la coexistence et la communication. Donc ils cherchent à se retrouver entre eux. Pour se retrouver entre soi, il faut essayer de trouver un lieu. Pendant très longtemps, l'extrême droite française, en tout cas, a été pratiquement dépourvue de lieux, à l'exception d'un petit local parisien que Serge Ayoub, un des leaders de la mouvance esquinelle, a réussi à faire tourner pendant une dizaine d'années. En province, il n'y avait pratiquement rien, mis à part une librairie d'extrême droite qui est pignon sur rue à Nantes depuis une trentaine d'années, mais qui n'a pas la capacité d'accueillir des réunions. Donc, les gens, par exemple, qui ont monté l'Alvarium, se sont inspirés d'une expérience qui est localisée en Italie, qui s'appelle Casapound. Casapound, c'est un immeuble à Rome, dans un quartier central de Rome, qui a été, pris par l'extrême droite, qui en a fait un squat, qui a été régularisé depuis, mais au départ, c'était un squat. Ce squat, l'extrême droite l'a transformé en un lieu à la fois culturelle pour la diffusion de leurs idées. Il y a des expositions, il y a des débats, il y a des visiteurs qui viennent de l'Europe entière pour rencontrer leurs homologues italiens. Et le fait que la municipalité romaine ait en quelque sorte avalisé à un moment donné la nécessité de légaliser ce squat et de lui laisser pignon sur rue à condition qu'il ne s'y passe pas trop de choses violentes, a donné des idées un petit peu partout, notamment aux gens qui ont monté le mouvement du Bastion Social, qui a été dissous il y a maintenant 2 ans. Les identitaires aussi ont beaucoup regardé du côté italien avant de monter quelques maisons de l'identité. Enfin, le nom était différent souvent d'une ville à l'autre. Et le bloc identitaire, à l'époque où, avant la dissolution, avait réussi à ouvrir des locaux à Nice, à Lyon, Paris, à Strasbourg, de manière plus éphémère à Toulouse, aussi à le cas approchant à Bordeaux, etc. Donc on avait une petite prolifération de lieux comme ça qui étaient susceptibles d'accueillir, on va dire, enfin je ne suis jamais allé à l'Alvarium, mais j'ai visité notamment le local du bloc identitaire à Nice. La capacité, c'est entre 50 et 70 personnes à la fois. Alors ça fait office de bar, d'un côté, donc de lieu de socialisation. De l'autre, la salle est transformable en salle de conférence pour accueillir un conférencier qui vient présenter un livre ou faire un peu de formation politique. Il y a de temps en temps, c'était le cas à Nice, un instructeur qui vient apprendre un sport de combat aux militants. J'ai vu par exemple à l'entraînement de taekwondo. Les autorités regardent ça évidemment du coin de l'œil parce qu'il arrive, c'est pas toujours le cas, il arrive effectivement qu'avec les militants dits antifa, les militants d'extrême gauche, il y ait un certain nombre de coups qui partent, un certain nombre d'escarmouches qui sont appréciées assez moyennement par le voisinage et qui, à un moment donné, poussent les autorités à essayer de faire fermer les lieux en question.
Toujours en lien avec l'actualité, on va parler crise sanitaire. On a vu les différents partis d'extrême droite en Europe se ruer sur la défense des libertés individuelles, la critique de la disparition des frontières, la mondialisation. Pour autant, est-ce que ces idées ont eu un écho important? Est-ce que ça pourrait servir à enclencher une dynamique électorale dans les prochaines années?
Alors cette question de l'appropriation des libertés individuelles, elle date d'avant la crise sanitaire. Je vais vous donner un exemple qui remonte à maintenant il y a quelques années et au vote au Parlement européen de ce qu'on appelle le fichier unique des passagers, qui est en fait ce fichier dans lequel vous rentrez automatiquement lorsque vous prenez l'avion. Il s'agit d'avoir une vaste base de données qui dépasse d'ailleurs le niveau européen et qui permet de savoir qui va où, à quel moment. Alors c'est effectivement un peu intrusif, mais il y a des raisons pour lesquelles ce fichier a été mis en place, qui tiennent en particulier à la nécessité de lutter contre le terrorisme qui a souvent frappé des avions ou des aéroports. Lorsque cette question du fichier unique est arrivée en discussion au Parlement européen, qui a-t-on vu monter au créneau pour défendre la liberté des individus contre cette sorte de Big Brother qui se mettait en place? Eh bien, c'était le Front National devenu Rassemblement National et les autres partis, Place Belang, Lega Nord italienne, AFD allemande, etc., qui lui sont apparentés et qui siègent dans le même groupe que RN au Parlement européen. L'idée, c'est de dire l'État est devenu un État totalitaire. Et au fond, nous sommes, nous, vrais défenseurs des libertés individuelles, des empiétements de l'État sur les libertés individuelles, ce qui permet à ces partis, qu'on décrit souvent comme des partis autoritaires, puisqu'ils sont catalogués à l'extrême droite, de dire, mais voyez, nous sommes le contraire de l'image qu'on veut donner de nous, nous sommes les véritables défenseurs des libertés des citoyens. Pendant la crise sanitaire, selon les pays, la réponse a été très très différente. Dans certains pays, en Allemagne en particulier, l'extrême droite s'est ruée sur toutes les théories alternatives, que ce soit les théories anti-vaccins ou même celles sur l'inexistence de la pandémie, pour tenter de mobiliser un certain nombre de gens qui ne venaient pas de ces rangs, mais qui trouvaient que les mesures sanitaires, le couvre-feu, l'obligation de porter un masque, le télétravail, etc., étaient des mesures privatives de liberté prises par un État résultats qui devenaient envahissants et totalitaires. Ça a assez bien marché. Près de 20 000 personnes dans les manifestations allemandes, avec à la fois des gens qui étaient en fait des néo-nazis, puis aussi des gens qui étaient des alternatives extrêmes gauches, qui avaient la même optique anti-totalitaire, mais qui acceptaient de descendre dans la rue à côté de gens qui sont à l'opposé de leurs convictions. Ça a beaucoup moins bien marché en France. En France, on a quelques petites manifestations de quelques centaines de personnes tous les samedis après-midi devant le ministère de la Santé à Paris, à l'initiative notamment de Florian Philippot. Mais Marine Le Pen n'a jamais voulu lancer ses militants dans cette bataille-là, dans la bataille qui vous fait côtoyer tous les complotistes. Elle ne dit pas que la pandémie n'existe pas. Elle demande une commission d'enquête pour déterminer quelle est l'origine de la pandémie, mais elle ne tombe pas dans le piège complotiste, tout simplement parce que dans son optique de dédiabolisation, elle ne veut absolument pas que son parti apparaisse comme ça. Elle a pu être très critique à l'égard de la politique gouvernementale, à l'égard de plein d'aspects de la politique gouvernementale, notamment elle a critiqué le manque de lisibilité des mesures gouvernementales et tout ce qui concerne la destruction du système hospitalier, le manque d'anticipation dans la gestion de la pandémie, etc. Mais c'est pas allé jusqu'à ce qu'on a vu en Allemagne et qui, finalement, n'a existé qu'à une petite échelle dans un certain nombre de pays. Alors en Irlande, au Danemark, aux Pays-Bas, où on a vu effectivement aussi des manifestations politisées qui sont en train de s'éteindre tout doucement au fur et à mesure qu'on sort de la pandémie, enfin en tout cas qu'on sort des restrictions sanitaires liées à la pandémie.
Je vous propose maintenant d'aller faire un tour en Grèce. Alors l'Aube Dorée, parti néo-nazi grec, a été reconnu organisation criminelle par la justice fin 2020. Deux autres groupes extrémistes existent, l'Alerte populaire orthodoxe et les Grecs indépendants. Qu'en est-il de ces derniers? Est-ce qu'ils pèsent vraiment? Et deuxième question, comment expliquer la présence de ces trois mouvements bien ancrés à droite dans un même pays?
Les deux mouvements que vous avez cités, les deux derniers mouvements, notamment l'Alerte populaire orthodoxe, sont assez faible dans le paysage politique grec. L'Aube Dorée était par contre un mouvement important, représenté au Parlement, réussissant à tutoyer la barre des 15% des voix, étant présent également dans la rue par des actions extrêmement violentes contre des réfugiés, contre des demandeurs d'asile, notamment dans des villes dont la population est assez populaire. Je pense notamment à la ville du Pirée, qui est en fait le grand port d'Athènes, où à un moment donné, l'Aube Dorée s'était véritablement constitué un fief. Un parti néo-nazi en Grèce, ça paraît effectivement assez anachronique, surtout que la Grèce est un pays qui a beaucoup souffert de l'occupation nazie, mais il y a, si on réfléchit bien, des explications à ça. La Grèce s'est retrouvée dans une situation doublement difficile. La première, au plan économique et social, puisque la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne lui ont imposé plusieurs plans d'austérité qui ont littéralement saigné à blanc le pays, et notamment la classe moyenne, qui a eu, à un moment donné, la tentation de basculer vers une forme radicale de contestation du système. La seconde chose, c'est que la Grèce s'est retrouvée, aux alentours de 2015, aux avant-postes de la crise migratoire. Il n'y a qu'à regarder la carte pour comprendre la raison. C'est la proximité de la Turquie, par où passaient les réfugiés qui fuyaient la zone de combat syro-irakienne. Donc, sans aucune préparation, dans une situation économique absolument désastreuse, ce pays a vu, j'ai constaté moi-même il y a 2-3 ans à Athènes, arriver des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas volontaires pour rester nécessairement, mais qui en tout cas transitaient par la Grèce pour poursuivre ensuite leur chemin migratoire à travers l'Europe, mais dont tout de même certains restaient. Et la situation est vite devenue absolument ingérable parce que l'Union européenne n'a pas apporté, là encore, l'appui qu'il fallait aux autorités grecques. Elles les ont laissées se débrouiller toutes seules. Elles ont laissé l'État grec totalement exempt, par ailleurs, faire face aux besoins pressants d'accueil des populations migrantes, soit en termes d'hébergement, soit tout simplement en termes de capacité à leur fournir une aide alimentaire, des premiers secours, etc. Et à un moment donné, passez-moi l'expression, ça a pété. Ça a pété parce que, la société grecque n'est pas une société multiculturelle. C'est une société très homogène autour de l'ethnicité, très homogène autour de la religion, qui est la religion orthodoxe, un statut de non plus de religion d'État, mais en tout cas de religion de 99,9% de la population. Et à un moment donné, l'Aube Dorée a capté cette sorte de détestation de migrants qui sont en plus de ça, de religion musulmane, donc évoquant pour les Grecs l'ennemi traditionnel, hein, qui est la Turquie. puis à un moment donné, l'État, voyant qu'on devrait quand même enregistrer des progrès significatifs et du point de vue de la sécurité, cela commençait à poser problème, l'État a pris prétexte d'un meurtre, le meurtre d'un DJ politiquement orienté à l'extrême gauche, par Los Frisas, pour dissoudre l'Aube Dorée, non pas au motif de son idéologie, mais au motif qu'elle agissait comme un gang, comme une organisation criminelle. Donc, un procès s'est déroulé qui s'est installé sur plusieurs années et finalement, l'ensemble du leadership du mouvement a été condamné à de lourdes peines de prison et le mouvement est dans l'incapacité pour l'instant de se reformer puisque ses dirigeants sont incarcérés. Je crois que le gouvernement de droite actuellement au pouvoir à Athènes a réussi à se débarrasser d'Aube Dorée. Après, bon, un procès qui est un procès assez unique, hein, parce qu'en principe, on dissout des mouvements un petit peu partout en Europe, quand le bloc identitaire est dissous, par exemple, si bien en raison d'une partie de son idéologie. L'utilisation de l'assimilation à un gang, j'allais dire à un gang de droit commun, c'est quelque chose d'assez nouveau en Europe.
On va faire un tour au Parlement européen, on arrivera à la fin de cet entretien. Il existe deux groupes politiques bien ancrés à droite, le groupe Identité et Démocratie, dans lequel on retrouve la Ligue italienne, l'AFD allemande, le RN, le FPÖ autrichien, les Flamands, et les conservateurs et réformistes, où se retrouvent regroupés Fratelli d'Italia, le PiS polonais, Vox pour l'Espagne, les démocrates suédois. Qu'est-ce qui différencie ces deux groupes ?
D'abord, bien comprendre la logique des groupes dans un Parlement. Pourquoi est-ce que des partis s'allient pour former un groupe dans un Parlement, que ce soit un Parlement national ou un Parlement européen ? Parce que ça donne des moyens, ça donne du temps de parole, ça donne des financements et ça donne des collaborateurs pour aider les députés à faire leur travail parlementaire. Donc, au-delà des divergences qui peuvent exister entre tel et tel parti, ils ont objectivement l'obligation de s'allier pour former un groupe en début de mandature, sans quoi ils siègent parmi ce qu'on appelle les non-inscrits, qui en fait sont quasi invisibles, puisqu'ils disposent de moyens matériels très réduits et d'un temps de parole dans l'hémicycle qui est lui aussi assez insignifiant. Le groupe Identité et Démocratie, il est soudé autour du Rassemblement National, principalement. Ça ne veut pas dire nécessairement que le Rassemblement National, l'AFD allemande, le parti de M. Salvini et tous ceux qui y siègent sont sur la même ligne idéologique. Ils ont des fois des divergences qui sont, somme toute, assez minimes, mais qui existent. Et puis, du côté du groupe ECR, on a affaire à des partis qui sont davantage des partis nationalistes souverainistes, avec un couple anciennement formé par les conservateurs britanniques et les Polonais du Parti Droit et Justice, c'est-à-dire le parti qui est au pouvoir actuellement à Varsovie. Aujourd'hui, la configuration est différente puisque les Britanniques sont sortis du Parlement européen et on a un axe là, qui est en cours de constitution, ça n'a pas encore abouti, mais c'est en pourparler, on va dire, entre le PiS, donc le parti polonais, le parti hongrois de Viktor Orban, le Fidesz, qui a été exclu
du Parti populaire européen.
Qui est donc la formation qui regroupe les conservateurs traditionnels, et puis peut-être la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui regarde aussi de ce côté-là. Il y a eu des rencontres, qui s'est produite récemment entre le Premier ministre polonais, qui est tout de même pas rien, Viktor Orban et Matteo Salvini, pour tenter de changer un peu la configuration de ces droites au Parlement européen. Après, les groupes au Parlement, ils sont assez instables. Vous savez, il y en a pratiquement pas un seul qui a la même composition à la fin de la mandature qu'au début de la mandature. Parce que il y a effectivement une logique, idéologique, mais il y a aussi une logique de puissance. Si vous prenez par exemple le Rassemblement National au Parlement français, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas les 15 députés nécessaires pour former un groupe. Le résultat, c'est qu'en termes de moyens et en termes de temps de parole, on ne les voit pas. Ils n'ont pas la possibilité de développer leurs idées.
Dernière question, et je vous invite à faire un petit pronostic. Si l'extrême droite devait prochainement arriver à la tête d'un État européen, quel serait cet État en question et pourquoi ?
Alors, mon pronostic concerne une entité administrative qui n'est pas un État et qui est la Flandre. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les intentions de vote aux prochaines élections en Belgique néerlandophone donnent le Vlaams Belang largement en tête devant la Nouvelle Alliance flamande et que la somme des deux, donc de ce parti à proprement parler l'extrême droite et de ce parti, on va dire, populiste national conservateur, est outrageusement majoritaire. Sauf que la Flandre n'est pas indépendante, le Vlaams-Belang et dans une certaine mesure la NVA sont favorables à l'indépendance de la Flandre, mais pour l'instant, elle fait toujours partie d'une Belgique qui est de plus en plus fédérale. Donc voilà mon pronostic, il se situe là-bas, mais c'est pas réellement une entité étatique.
Bien, merci Jean-Yves Camus d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir apporté tous vos éclairages sur cette large thématique des droites extrêmes en Europe. Vous pouvez retrouver l'ensemble des travaux de l'Observatoire des radicalités politiques sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès. Jean-Yves Camus est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur cette thématique. Et enfin, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos articles et podcasts sur notre site www.causon-d'europe.eu. Encore merci.
Merci à vous.